Chapitre 19. L'Exode. Jeudi, 17 août 2000, 12h01, route de Saint-Argan, île de Mornecey. Je marchais en direction de Saint-Argan. Le port devait se situer à un peu plus d'un kilomètre. J'étais sur la partie la plus haute de l'île, mais la route était bordée d'un talus planté de noisetiers et on ne distinguait aucun panorama. Beaucoup de voitures me croisaient, beaucoup plus que d'habitude. Toutes filaient dans la même direction. Comme si le camping Les Dauphins, le plus à l'est de l'île, se vidait d'un coup de tous ses vacanciers. Bientôt, le flux ininterrompu des véhicules me lassa. Je grimpais les 3 mètres de talus. Je savais qu'en coupant par la lande, on arrivait sur la route de l'abbaye, juste en face de l'anse de Ruby. Il y aurait peut-être moins de monde. Je marchais péniblement dans un petit chemin, mélange de sable, de terre blanche et d'herbes éparses. Rapidement, la terre et les herbes se firent plus rares. J'entrais dans une pinède un peu vallonnée. Avec détermination, j'enfonçais mes pieds dans les petites dunes, essayant tant bien que mal de profiter de l'ombre des pins maritimes. Après moins de 300 mètres, je débouchais directement route de l'abbaye, dominant de plus de 40 mètres la grandiose anse de Ruby. Tout de suite, l'incroyable agitation de la plage me sidéra. Des voitures de flics partout. Pas une ou deux, tout un parking, comme dans les films. Un long ruban orange servait de périmètre de sécurité pour interdire la plage. Des dizaines de badauds se tassaient derrière la rue Balise. L'immense plage était d'ailleurs vide, ou vidée plutôt. La marée basse rendait l'étendue de sable désertée plus impressionnante encore. Seuls quelques types en bleu, en uniforme, comme des fourmis, occupaient l'espace. Ils discutaient, se penchaient pour prendre des mesures, des échantillons de sable. Évidemment, l'idée première qui me vint fut celle d'un noyé. Mais tout ce remue-ménage semblait bien disproportionné pour un accident de baignade. Des requins ? Ça me fit sourire. Il y avait aussi ces deux fuyards sur l'île. C'était peut-être l'explication. Une certaine angoisse commençait à monter en moi. Les événements prenaient une drôle de tournure sur cette île depuis quelques jours, comme si quelque chose était en train de craquer. Comme si le décor paradisiaque de Mornecey se déchirait et partait en lambeaux. Que découvrirait-on derrière ? Je poursuivis mon chemin vers Saint-Argan. La route était plus bondée encore que celle de la Crique aux Mauves. Les voitures étaient obligées de rouler au ralenti. En observant l'intérieur des véhicules, j'avais l'impression qu'une majorité des vacanciers pliaient bagages. Pourquoi décamper un jeudi, en plein milieu de la journée, sous un soleil magnifique ? Étrange. J'imaginais qu'il devait y avoir un bouchon considérable pour embarquer sur le ferry. Heureusement, sur la piste cyclable qui longeait la route, je pouvais marcher sans avoir à me faufiler entre les pots d'échappement. Un peu plus loin, dans la file d'automobiles, désormais presque arrêtée, je repérais une voiture de journaliste aux couleurs de France 2. Il devait se passer un truc vraiment dingue pour que les journalistes du continent rappliquent aussi vite. J'arrivais à Saint-Argan. Curieusement, tout était calme. Les excités étaient certainement à la plage, où avait déjà fui ce mystérieux cataclysme. L'unique cabine téléphonique de l'île que je connaissais se situait sur la place centrale du village, la place du 20 mai 1908. J'ignorais ce qui avait pu se passer ce jour-là. J'entrai, j'introduisis une pièce et je composai le numéro de ma grand-mère, Madeleine. 3 sonneries dans le vide et Mamie Madeleine me répondit. « Mamie, c'est Colin !» Mamie fut un peu surprise et très heureuse. « Colin, comment vas-tu ? C'est gentil de m'appeler de ton camp. Surtout que tonton et tata m'ont dit que les téléphones portables y étaient interdits. Tu as beau temps ? Ça te plaît la voile ?» Je la laissais dérouler les banalités d'usage. Depuis 24 heures, j'avais pris de l'assurance. Lorsque Mamie reprit son souffle, j'attaquais sans sommation. « Mamie, est-ce que papa avait un frère jumeau ?» Mamie Madeleine resta scotchée à l'autre bout. Son pauvre petit cœur. Elle parvint tout de même à articuler. « Qu'est-ce que tu me racontes, Colin ?» Son étonnement semblait sincère. C'était un test volontaire, l'effet de surprise. Je répétais. « Est-ce que papa a un frère jumeau ?» Elle commençait à organiser ses idées. « Mais non, voyons, qu'est-ce que tu vas chercher là ? Bien sûr que non ! Pourquoi tu me demandes une chose aussi idiote ?» J'avais décidé de jouer franc jeu, pour la déstabiliser, pour être certain. « J'ai vu papa hier, vivant, sur l'île. Il conduisait une fourgonnette sur le port. » Sa réaction fut celle que je craignais, l'inquiétude. L'inquiétude pour son petit-fils et sa santé mentale. « Mon petit Colin, non ! Ne va pas t'inventer des histoires comme celle-ci. Ne commence pas à te rendre fou avec ça. Ce n'était pas Jean que tu as vu sur le port.
Ce n'était pas ton papa, ni son frère jumeau. Ton papa est mort. Il était fils unique. Je peux te le jurer sur ce que j'ai de plus cher au monde. Tu as simplement vu quelqu'un qui lui ressemblait. Tu as cru. »
Une certitude se cognait aux parois de mon crâne. Mais non, je n'ai pas cru. Je sais. Mamie continuait au bout du fil.
« Tu n'aurais jamais dû retourner sur cette île de malheur. Au début, j'étais d'accord, mais ce n'était pas une très bonne idée au bout du compte. »
J'avais l'information que je souhaitais. Elle avait l'air sincère. La piste du frère jumeau, à laquelle je ne croyais pas trop, m'avait effectivement l'air d'une impasse. Je rassurais Mamie Madeleine.
« T'as raison, Mamie. C'est sûrement quelqu'un qui lui ressemblait. Je voulais être sûr, ne t'inquiète pas. »
Mamie Madeleine me lança encore quelques
« Tu es certain que ça va ?»
Mais je réussis tout de même à raccrocher. Je regardais ma montre. 13h07. Il fallait que je sois rentré au camp pour 16h. J'hésitais. J'avais faim. Entre ma nuit blanche et mon réveil d'épouvante, je n'avais mangé depuis hier soir que les langues de chat de Nounou. Je jetai un coup d'œil aux alentours. Personne. Ou presque. Le cardinal Mazarin, au centre de la place, sur son piédestal de pierre, regardait sans broncher en direction du port et de la mer. La barbichette finement taillée, les cheveux ondulés tombant sur ses épaules, les bras croisés sur sa soutane, les doigts crispés sur un parchemin aux inscriptions indéchiffrables. Indifférent depuis longtemps au chaos de l'île. Direction le port. Mazarin avait raison. Je décidai finalement de m'installer 30 minutes au Grand Cormoran, la plus belle terrasse du village, pour ne pas trop entamer mon timing serré. Je commandai une salade et un panaché. Je jetai un regard circulaire sur la terrasse et sur le port, au cas où le père Duval, Steph ou Yo-Yo se pointeraient, et aussi un peu pour mater les starlettes de Saint-Argan. Avec l'agitation sur l'île, le père Duval et les autres devaient être vigilants. J'imaginais leur réaction s'ils me voyaient seul à la terrasse, une bière à la main. La terrasse du Grand Cormoran était presque vide. Toujours cette impression qu'un raz-de-marée avait traversé l'île. Je réfléchissais pour organiser mon après-midi. Le plus important d'abord, me rendre au cimetière. Depuis 10 jours, j'avais repoussé ce moment. Sans savoir pourquoi, il me semblait urgent de me rendre sur la tombe de mes parents. Comme un pèlerinage. Peut-être parce que, si devant la tombe de mon père, je restais encore persuadé qu'il était vivant, c'est qu'il l'était vraiment. Ma salade arriva. Pour 8,50 €, 3 radis, 10 de dés de jambon sur une montagne de salade verte. Les voleurs. C'était vraiment une île de truands. À la table la plus proche de moi, j'avais repéré un vieux beau, le regard de faucon, la veste nickel, le portable greffé à l'oreille. Il se tapait à lui tout seul un méga plateau de fruits de mer accompagné d'une bouteille de vin blanc déjà à moitié descendue. Au prix de la laitue, j'avais du mal à imaginer celui des langoustines. Malgré moi, j'écoutais le vieux beau hurler dans son portable.
« Mais non » criait-il. « Je ne suis pas au rubis, qu'est-ce que je foutrais au rubis? Tu parles, tous les nationaux y sont. Oui, radio et télé, il n'en manque pas une. Il y a embouteillage au rubis. C'est pas là-bas que je vais décrocher de l'inédit. »
Je repérais qu'il tenait dans sa main un stylo griffé lilien. J'en conclus que ce devait être un des journalistes. Bon plan. Le journaliste continuait.
« T'inquiète pas pour moi, j'ai mes tuyaux. Je suis introduit dans le milieu. »
Il partit dans un immense éclat de rire, à faire s'envoler toutes les mouettes du port.
« Je les ai tous doublés ce matin. La panique sur l'île. J'aurais bien voulu voir la gueule du maire et du directeur de la prison quand ils ont lu ma une. Cela dit, il faut pas que je tape trop fort non plus. Si tous les touristes foutent le camp, c'est aussi mes lecteurs qui se cassent. »
Un silence. L'autre devait lui poser une question. Le journaliste en profita pour vider son ballon de blanc, puis cria la réponse.
« Si, si, c'est l'exode. Les campings commencent à se vider. Ça bouchonne sur 1 km au terminal, il paraît. Le ferry en est aujourd'hui à son 4e aller-retour avec le continent. Il parle de faire venir celui de Jersey en renfort. Ça décampe sec, surtout depuis 9h du matin. Tu penses, les gamins sont pas prêts de revenir faire des pâtés de sable sur la plage du Ruby après ça. »
Il partit à nouveau dans un immense éclat de rire.
« Oh putain, ça me change quand même de la folie Mazarin. J'avais 10 pages là-dessus au frais. Tu penses, pour l'instant, je les garde au frigo. »
J'attendais. Je voulais poser quelques questions à ce journaliste. C'était l'occasion ou jamais. Un signe du destin. Il y avait longtemps que j'avais englouti ma salade et rôté mon panaché, mais j'attendais. Le vieux beau n'arrêtait toujours pas. Il était au téléphone depuis près de 3 quarts d'heure. C'était ça, le métier de journaliste? La tchatche? Dire que c'était un métier qui me tentait. Et il continuait.
Tu te rends compte? C'est la seule fois en 8 ans que mon stock est épuisé. À 10h, tout était vendu. Là, je me repose un peu. Ce matin, ça n'a pas arrêté les interviews. France Info, Europe 1. Tu vas même peut-être voir ma tête sur LCI. Remarque, faut en profiter. Demain, ils seront tous passés à autre chose. Pas grave, je ressortirai la folie Mazarin pour les survivants, hein? Ouais, je te laisse. Comme tu dis, il faut que je retourne m'introduire dans le milieu.
Il rit une dernière fois à pleines dents.
Allez, ciao!
Enfin. Je ne lui laissais pas le temps de respirer, de s'enfiler un bulot ou de se resservir un verre.
Vous êtes journaliste à Lilien?
Oui.
Il n'eut même pas l'air surpris, souriant, plutôt sympa.
Rédacteur en chef même, mon garçon.
J'avais pris l'habitude. J'attaquais une nouvelle fois sans préambule.
Excusez-moi, je suis à la recherche de renseignements, de détails précis sur une affaire qui s'est déroulée sur l'île de Mornessay il y a 10 ans. Elle concernait un archéologue, Jean Rémy. Je ne sais pas si cela vous rappelle quelque chose.
Le journaliste me dévisagea longuement, comme on regarde une bête curieuse. Je devinais sa réaction. Il se passait un truc dingue dans l'île. Ces deux prisonniers en cavale et autre chose de moins aussi grave qui avait été découverte dans l'anse de rubis. Tout le monde ne parlait que de ça depuis ce matin. Et moi, je débarquais avec des fantômes vieux de 10 ans. Hors sujet? Pas certain. Le rédacteur en chef me dévisagea avec intérêt. Incontestablement, c'était un bon journaliste. Il savait se laisser surprendre. L'instinct. Il aurait dû m'envoyer chier, il avait mieux à faire aujourd'hui. Mais non. Il avait flairé quelque chose, sans saisir encore quoi.
Pourquoi tu viens de demander ça aujourd'hui?
Je suis le fils de Jean-Rémy. Je suis au camp du père Duval, sur la presqu'île.
Il en profita pour avaler une huître.
Le fils de Jean-Rémy? Quelle journée! Un cadavre, un revenant!
Il me regarda à nouveau en sifflant une seconde huître.
Ça va t'étonner, mais je me souviens un peu de toi. T'étais haut comme 3 pommes. C'est comment déjà ton prénom?
Colin.
Colin, c'est ça. Bon, mon garçon, je ne vais pas pouvoir te parler là. C'est un peu bousculé aujourd'hui. Mais tu peux passer à Lilien quand tu veux. On a tous les numéros depuis 15 ans. T'auras tous les détails sur ton affaire.
Je le regardais avec un regard d'épagnole. Il compatit tout en remplissant son verre.
Une sale histoire, tu sais,
commença-t-il.
Pas de chance pour ton père. C'était un brave type. Mais il était mal entouré. Très mal entouré. Lui, je lui aurais fait confiance. Mais ses associés n'étaient pas fiables. Son grand pote, Maxime Prieur, même son beau-frère, il aurait dû se méfier. Il s'est laissé déborder. C'était impur, ton père, mais tu sais, la pureté face aux frics, ils l'ont broyé. Il n'était pas à sa place, je crois, sur cette île de truands. Il dérangeait tout le monde avec ses idéaux.
Je n'avais pas beaucoup de temps. J'allais droit au but. Vous n'avez jamais eu de doute sur sa mort? Le journaliste, surpris, hésita un peu.
Non, personne ne s'est vraiment posé la question. Il a laissé une lettre d'adieu, on a retrouvé le corps, et puis, c'était presque prévisible, avec 3 morts sur la conscience.
Je m'enfonçais. Vous ne l'avez jamais croisé sur l'île, alors? Croisé vivant, je veux dire.
Le rédacteur en chef de Lilien me fixa alors avec cet air de compassion que je détestais. Ce regard que l'on adopte face à quelqu'un dont on doute de la santé mentale.
Bien sûr que non, petit, je l'ai jamais revu. Et pourtant, je fréquente cette île jour et nuit depuis 15 ans. Ton père est enterré au cimetière de Lille avec ta mère, la plus belle fille de Lille à l'époque. Ton père avait beaucoup de chance de ce point de vue-là. Petit, tu sais, je l'aimais bien ton père. C'était quelqu'un de fidèle à ses principes, comme au reste. Sois fier, fiston. Ton père est mort avec dignité.
Le journaliste leva son verre.
À la mémoire de ton père, Colin. Il aurait aimé cette modeste bouteille. Un petit vin blanc de Jersey, le dernier vignoble encore produit aujourd'hui dans les îles anglo-normandes.
J'ai cru le voir, hier, sur le port.
Ton père était très connu à Mornessay. S'il se promenait dans l'île, il serait immédiatement reconnu. Et alors, crois-moi, je serais au courant. C'était quelqu'un qui lui ressemblait.
Ces arguments ébranlaient mes convictions. Mais il ne fallait pas que j'y pense. Il ne fallait pas que je lâche.
Quand vous dites que mon père dérangeait tout le monde, vous pensez à qui?
Il reposa à contre-cœur son bulot.
C'est une longue histoire, compliquée. Il vaudrait mieux que tu lises les articles de l'époque. Tout le dossier. Là, je vais pas avoir le temps. Ça mettait en jeu un gros groupe immobilier, Eurobuild, des Illuminés. Ça mettait en jeu aussi l'État à cause de l'abbaye, un patrimoine historique, l'association de ton père et ses membres, la mairie de Saint-Argan aussi, à cause des permis de construire.
Subitement, il se figea, comme un chien en arrêt. Un instant, je crus qu'il faisait un malaise. Ses yeux se ranimèrent soudain.
Po-po-po-po-po, fit-il. Les permis de construire. Mon garçon, tu viens de me donner une idée.
Je le regardais sans comprendre.
« Ça m'était sorti de la tête !»
m'expliqua-t-il.
Avec Valerino, j'étais resté sur son histoire de détournement de marché public. Mais au moment de l'affaire du chantier des sanguinaires, il était déjà à la mairie, le gaillard.
Il posa sa main, impeccablement manucurée sur son épaule.
« Petit, tu es un cadeau du ciel. Ton papa va refaire la une du journal. »
À partir de là, il ne s'intéressa plus à moi. Il reprit son portable et téléphona à quelqu'un qui devait être sa secrétaire.
« Ouais, à propos de Valerino, le survivant. Je cherchais pour l'édition de demain ce qu'on pourrait écrire que les médias nationaux ne sortiront pas. Son affaire de corruption, tout le monde va se jeter dessus. Nous, on va ressortir l'accident des sanguinaires. Oui, je sais qu'il n'avait rien à voir avec ça. Mais on peut tout de même fouiner, suggérer. Il était tout de même à la mairie à l'époque. T'es gentil, tu me ressors le dossier, j'arrive. »
Il partit en trombe dans la minute qui suivit, sans avoir touché à la moitié de son plateau de fruits de mer. J'avais encore faim, mais je n'allais tout de même pas jouer les pique-assiettes. Je consultais ma montre. 14h30. Je devais être de retour au camp à 16h. Il me fallait au moins 3 quarts d'heure pour me rendre au cimetière au nord de l'île, puis encore 1 quart d'heure pour retourner au camp. Le soleil jouait désormais à cache-cache avec les nuages qui s'accumulaient dans le ciel. Un léger vent se levait, comme si le temps était en train de changer. J'avais un peu mal au crâne. Le panaché me tournait la tête. J'avais encore du boulot avant de devenir un héros. À défaut de tenir l'alcool, j'avalais des kilomètres. Une nouvelle fois, je me retrouvais route de l'abbaye. À pied, j'allais plus vite désormais que les voitures qui bouchonnaient. Au loin, j'apercevais encore des gyrophares. L'exode. Le journaliste n'avait pas tort. Les vacanciers avaient entassé à la va-vite tentes et bouées à peine dégonflées sur leurs galeries. Les coffres de toit débordaient. Les enfants pleuraient leurs jouets oubliés et leurs vacances terminées. Les plus grands guettaient avec curiosité par la fenêtre l'agitation des policiers. Tout cela pour 2 fuyards. Le journaliste avait aussi parlé d'un cadavre, et de ce Jean-Louis Valerino. Un règlement de compte entre les 2 fugitifs, l'un était mort et l'autre courait toujours. J'avais bien saisi que le journaliste imaginait un lien entre cet évadé et le chantier de cette boîte, Eurobuild. Ça faisait aussi partie des points à éclaircir. Plus tard, pour l'instant, une question principale me taraudait. Une question que cet enfoiré de journaliste m'avait mise en tête. Pourquoi étais-je la seule personne de l'île de Mornessay à avoir reconnu mon père ? Au bout 1 kilomètre le long de la route de l'abbaye, la chaleur et l'odeur des gaz des voitures, par choc contre par choc, devinrent insupportables. Nauséeux, je décidai de couper par un sentier au cœur de la lande, qui passait un peu au nord de l'abbaye Saint-Antoine, et rejoignait ensuite la route de la citadelle, presque face au cimetière. À peine quitté la grande route, j'eus immédiatement l'impression de me retrouver seul au monde. J'entendais juste le bruit des klaxons énervés, vite couverts par le vent dans la lande soufflant vers la mer. Je marchais, et plus je marchais, plus la peur me gagnait. Une peur irrationnelle. La même peur irrationnelle qui poussait tous ces vacanciers à fuir. La route était à moins de 150 mètres, surplombant la plage, avec 1 flic par mètre carré. Pourtant, cette histoire de détenu en cavale faisait peu à peu son chemin dans mon esprit. Le père Duval recommandait de ne jamais se promener seul. Obsédé par mon histoire personnelle, n'avais-je pas oublié les consignes les plus élémentaires de sécurité ? M'isoler sur une île grande comme un timbre-poste, avec un criminel en fuite. Dans les broussailles qui entouraient chaque côté de l'étroit chemin, n'importe qui pouvait se cacher. Je progressais dans une jungle d'herbes folles, d'arbustes et de vieux pieds de vigne abandonnés depuis longtemps. Même à 1 mètre de moi, je ne pouvais rien voir. Ça me rassurait un peu, finalement. Si les évadés se planquaient là, quelque part dans la lande, ils n'avaient pas intérêt à se montrer. Je tentais alors de chantonner les airs militaires que ces crétins du camp connaissaient par cœur. Sous le fer et la mitraille. Je chantais en marchant bruyamment, comme on le fait pour éloigner les vipères quand on avance sur des pierres sèches. Par la poudre et le canon. Si les types en cavale étaient devant, ils m'entendraient et auraient le temps de se cacher. Nous irons vers la victoire. Je devais avoir l'air complètement débile, chanter tout seul dans la lande l'air du jour le plus long, avec l'envie de vomir ma bière. J'aurais dû poursuivre par la route, quitte à gerber. Car ce jour est le plus... J'entendis soudain un bruit, un peu devant moi, distinctement. Tout de suite, je me forçais à penser à un animal. Et très vite, je raisonnais, fais comme si de rien n'était, marche de façon naturelle. Si c'est le fugitif, ce Valerino dont le journaliste a parlé au téléphone et qu'il a l'impression que tu l'as repéré, tu es mort. Ta seule chance, c'est de faire comme si tu n'avais rien entendu. Je continuais de chanter. Malgré mes pensées qui s'affolaient, je parvenais à tenir la mélodie sans trop trembler. Ça pouvait être aussi un couple en train de faire l'amour. Je n'avais aucune envie de jouer les mateurs pour vérifier. Devant moi, les branches d'un arbre bougèrent. Quelqu'un était caché là. Chanter, continuer, ne pas tourner la tête, ne pas réagir. J'avançais. Tenir au même rythme. La route de la citadelle ne devait plus être très loin. Malgré moi, mes pas s'accéléraient. Je ressentais une impression étrange. Je devinais une menace invisible. Tout en avançant, j'arrêtais de fredonner. J'entendis des bruits de pas en écho au mien. Un râle, une respiration difficile. Quelqu'un marchait derrière moi. Je luttais contre moi-même. Continuer. Faire comme si je n'avais rien entendu. D'énormes gouttes coulaient dans mon dos. Rester naturel? Et me prendre une lame de couteau par derrière sans même me retourner? La respiration se rapprochait de moi. Je baissai les yeux vers mes pieds. Une ombre, une deuxième ombre, s'étirait juste derrière la mienne. Ma gorge s'étrangla. Terrifié, je m'attendais à ce que de grosses mains velues s'enroulent autour de mon cou. L'ombre se rapprochait, se confondait avec la mienne. Elle était sur moi. Impossible de lutter, je me retournais. Je hurlais. Devant moi se tenait un monstre. Visage édenté, vêtu de haillons, des longs cheveux blancs. Une allure de marin ivrogne sorti d'un film de pirate. Ce n'était pas Yo-Yo ni quiconque déguisé. C'était un fou assoiffé d'alcool. Il se pencha vers moi, avança sa main sale tout en cherchant à articuler quelque chose.